En quarantaine avec Radio Notre-Dame.
La crise sanitaire renforce-t-elle le pouvoir du numérique sur nos vies? Nous sommes encore internés et en quelque sorte libres, mais déconfinés serons-nous traqués? C'est la question qui se pose. Alors évidemment, il y a de l'actualité, puisque vous savez que l'application Stop Covid doit permettre de tracer les contacts avec les personnes diagnostiquées positives au coronavirus. Cette application, qui a connu quelques aléas au début, elle sera prête pour le 2 juin pour accompagner le déconfinement, sans avoir recours aux plateformes Apple et Google, précisons-le. Alors, au-delà de cette application dont on va parler, il y a tout un ensemble de questions qui se posent sur le traçage. Vous savez, il y a un mot, un anglicisme qui est apparu à la faveur de cette crise, c'est le mot « tracking ». Des pays l'ont pratiqué assez abondamment, comme l'Allemagne par exemple. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Et puis, est-ce que ça nous fait passer dans une nouvelle ère, dans une autre génération qui, comme je le disais à l'instant, va renforcer le pouvoir du numérique sur nos vies, au détriment de notre liberté? Et à la faveur de qui précisément? Alors c'est la question qu'on va poser à François Jeanne Bello, qui est fondateur de Trouvert, intelligence économique et veille sur Internet. Il est professeur associé à l'école de guerre économique. Bonjour François Jeanne Bello.
Oui, bonjour.
Et Jean-Thomas Le Sueur est également avec nous, délégué général de l'Institut Thomas More, laboratoire d'idées, de solutions innovantes installées à Bruxelles et à Paris. Bonjour Jean-Thomas Le Sueur.
Bonjour.
C'est avec vous que je vais commencer parce que vous êtes à l'origine d'une campagne intitulée « Traçage numérique, pourquoi ces noms ?» C'est un nom catégorique.
Oui, c'est un nom catégorique parce que, on va sans doute y revenir, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce projet d'application Stop Covid du gouvernement, des incertitudes techniques, c'est-à-dire que nous considérons que les garanties techniques mises en avant par ses défenseurs, à commencer par le gouvernement, ne sont pas suffisantes. Et surtout, ça pose d'immenses questions politiques et éthiques qui nous apparaissent ne pas être traitées du simple fait de la situation exceptionnelle que nous vivons, c'est-à-dire que la sécurité sanitaire empêche en quelque sorte que nous nous posions des questions lourdes sur nos libertés.
Et quelle question lourde cela fait-il peser, pardon, sur nos libertés précisément?
Une toute simple, c'est-à-dire que c'est la première fois que le gouvernement propose officiellement de mettre en place un outil de suivi de nos allées et venues, et c'est-à-dire que c'est une atteinte à une liberté fondamentale qui est la liberté de circulation, la liberté d'aller et venir, et que cela ne peut pas se faire sans, encore une fois, une profonde réflexion politique. J'ajoute que de nombreux développements à cette initiative sont également extrêmement menaçants.
Jean-Thomas Le Sueur, expliquez-nous comment fonctionne cette application Stop Covid.
C'est assez simple, c'est-à-dire que c'est un instrument numérique qui se servira de la technologie Bluetooth et qui doit permettre effectivement d'identifier non seulement les porteurs du virus, mais surtout de pouvoir faire leur entourage, comme on dit dans la police, c'est-à-dire de pouvoir savoir avec qui ces porteurs ont été en contact et donc de pouvoir les alerter.
Mais si je pose le problème de manière très concrète, si c'est une application, c'est donc sur un téléphone à première vue. Et donc, il faut déjà que j'aie un téléphone.
Ah oui, de toute façon, c'est l'une des critiques qui a été faite notamment par la présidente de la CNIL, enfin pas des critiques, mais des remarques qui a été faites par la présidente de la CNIL, c'est que notamment, une partie des personnes les plus âgées, des Français les plus âgés, étant sous-équipés, comme on dit, en smartphone, ils ne vont pas être concernés ou pas être couverts, si je puis dire, par cette application.
Donc déjà, il y a une faille statistique importante, c'est-à-dire que ça ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne que les usagers du téléphone portable.
Naturellement.
Et encore pas tous, puisqu'il faut être sur Android.
Encore une fois, si vous prenez la population française dans son entier, c'est plus de 90% des Français qui sont aujourd'hui équipés, c'est 100% des moins de, alors je ne sais plus si c'est 25 ou 35 ans, enfin 100% des plus jeunes. En revanche, si vous prenez la catégorie au-dessus de 70 ans, vous êtes à quelque chose comme 75 ou 80% d'équipement.
Et voilà. Alors, Jean-Thomas Le Sueur, dites-nous simplement, cette application, il faut qu'elle soit activée sur mon téléphone, comment s'opère le traçage? Et comment remonte l'information d'ailleurs?
Ah ben alors, ça, c'est encore aujourd'hui, tout n'est pas techniquement connu. C'est présenté comme devant être sur la base du volontariat. C'est là aussi l'un des éléments de garantie que donne le gouvernement. y a néanmoins, là, j'en profite pour dire qu'il y a là notamment pour nous une grosse incertitude. C'est-à-dire que certes, pour l'instant, c'est présenté comme un instrument qui ne fonctionnera que sur la base du volontariat. Mais je rappelle d'une part que Olivier Véran, ministre de la Santé, a, pas plus tard qu'hier soir au Sénat, dit qu'il n'y aurait pas de déconfinement sans traçage. Donc c'est comme si l'outil était présenté comme une condition au déconfinement annoncé la semaine prochaine. Et puis d'autre part, si on regarde un peu au-delà des frontières et qu'on regarde notamment ce qui se passe en Italie, le débat en Italie, vous avez aujourd'hui une bonne partie de la classe politique italienne qui réclame que cet instrument soit obligatoire et non plus sur la base du volontariat. Et j'ajoute même, alors vous me direz que je dis ça pour faire peur, mais c'est quand même la réalité du débat, en Italie, certains demandent que les anciens soient porteurs d'un bracelet électronique.
Alors François Jeanne-Belot, justement, sur cette question du caractère obligatoire, parce que vous dites, à la lumière de ce qui se passe dans d'autres pays, en Autriche par exemple, vous avez remarqué qu'on estime seulement à 4 à 5% de la population, que l'application proposée par la Croix-Rouge a été installée, et vous dites que si cette application, ce type d'application n'est pas massivement installée, ça ne sert à rien.
Oui, ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que en soi, déjà, il y a à mon sens une tromperie en fait sur la marchandise, puisqu'on présente déjà ces applications comme des applications de lutte contre la pandémie. Elles ne font rien pour lutter contre la pandémie. Toutes seules, ça ne sert à rien. C'est comme le confinement. Voilà. Cette application, elle permet juste de géolocaliser, hein, de savoir où se trouvent les personnes qui se sont déclarées eux-mêmes comme étant porteurs du Covid. Et effectivement, de voir si ils ont croisé telle ou telle personne dans leur entourage, avec des techniques qui, comme le disait Jean-Thomas Le Sueur tout à l'heure, sont pour l'instant floues, hein, puisque la CNIL a recommandé qu'on ne fasse pas appel à la géolocalisation fournie par les opérateurs de téléphonie mobile, même si au passage ceux-là ont déjà fourni ces données au gouvernement il y a quelques mois. Donc a priori, avec une technologie en Bluetooth qui détecte les appareils à proximité du vôtre, mais ce qui pose un problème, puisque sur certains téléphones, notamment Apple, la technologie Bluetooth n'est pas activée en permanence. Donc effectivement, il faut qu'un grand nombre de personnes soient porteurs de cette application, parce que sinon vous risquez de passer à côté de quelqu'un qui a le Covid, mais qui n'a pas l'application.
Mais vous dites, je vous pose la question, François Jeanne-Belot, vous dites qu'ils se sont déclarés eux-mêmes porteurs du Covid, mais qui va se déclarer lui-même porteur du Covid pour être repéré dans la foule? Ça paraît quand même incroyable.
Ça fait partie aussi des interrogations, c'est-à-dire que toujours sur la base du volontariat, mais qui est très flou, et là je partage tout à fait le point de vue de votre autre invité sur le fait que ça va être, à mon sens, sur le volontariat, mais comme le confinement, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être déconfiné, mais si vous êtes volontaire au déconfinement, il y aura des conditions qui seront notamment l'application. Ça tombe bien parce que pour l'instant elle n'est pas prête et que les gens commencent au passage à se déconfiner, donc il peut y avoir un reconfinement ou une méthode un peu plus sévère en disant, et je pense que là on est vraiment dans une stratégie de garde d'information ou d'influence, c'est-à-dire que comme les gens commencent un peu à sortir de chez eux, le gouvernement aura beaucoup plus l'attitude, je pense, à proposer des mesures un peu plus strictes et l'application pourra faire partie de ces mesures un peu plus strictes. Mais on ne sait pas si c'est les services de santé, puisque cette application, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit connectée à une base de données généralisée. Mmh. Qui va dire que vous êtes malade ou pas, et dans ce cas-là, il y a une nouvelle atteinte aux données personnelles, puisque là, c'est un partage de données de santé, ou bien si c'est vous qui déclarez que vous êtes malade. Et ça aussi, c'est l'incertitude, c'est-à-dire, est-ce que les gens vont jouer le jeu? Il y a un gros travail, et c'est pour ça que votre émission, enfin, je vous remercie au passage de cette émission, il y a un gros travail de sensibilisation, je pense, des citoyens, parce qu'aujourd'hui, on est en train de leur raconter une belle histoire, en fait. Et le problème de tous ces outils de traçage, quels qu'ils soient, hein, on parlait de bracelets numériques, dans d'autres pays, on va encore plus loin avec de la géolocalisation au coin des rues. Aujourd'hui, c'était pour vous défendre contre des attaques. Aujourd'hui, c'est plus que de la prévention, c'est concret, c'est de dire, c'est pour vous sauver la vie, quoi. Et il faut sensibiliser, je pense, pas mal les citoyens pour leur dire que, un, il n'y aura pas de point de recul, il n'y a pas de marche arrière possible, on est dans une logique d'effet de cliquet. Donc une fois que que ces solutions-là sont mises en application, ça va être très compliqué de revenir en arrière. Petit aparté, mais on a exactement l'exemple sur les drones utilisés par la police qui ne l'étaient pas jusqu'à présent et qui le sont devenus grâce ou à cause du Covid. Et vous pouvez être sûr que ça fera maintenant partie de l'arsenal du policier et que c'est pas prêt d'en sortir. Donc, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que les citoyens, en tout cas les consommateurs, eux sont déjà tracés par les GAFAM et de façon assez volontaire d'ailleurs. Parce que
donc par les géants du numérique, je traduis un petit peu, par les géants du numérique qui nous suivent à travers tous nos mouvements.
Voilà, alors qui nous suivent, si on en est d'accord. Et le problème, c'est que les Français ne sont pas forcément très bien sensibilisés là-dessus. Donc, ils installent des applications de traduction instantanée, des applications de recherche vocale, des enceintes connectées, etc. Et tout ça ont pour objectif de nous faciliter la vie, entre guillemets, de nous aider sans qu'on en ait émis le souhait, pour nous faciliter la vie. Mais aujourd'hui, les citoyens sont encore un peu frileux au fait que leur gouvernement fasse la même chose. Et je pense qu'il faut effectivement renforcer cela parce que, encore une fois, la marche arrière va être compliquée. Et une fois qu'on a mis en place ces applications, ces réflexes-là, on ne pourra pas revenir en arrière.
Alors, oui, j'ai encore une question, quelques questions. Allez-y, François-Jean Bello, puis je poserai ma question ensuite.
Non, c'est sur ce point effectivement de sensibilisation, de dire il faut faire attention. Et on a au passage quelques signaux assez, j'allais dire faibles, malheureusement ils ne le sont plus trop, en termes de liberté. C'est-à-dire que la France a fait il y a quelques temps la loi anti-fake news, qui est passée assez discrètement malheureusement, mais qui est quand même dramatique aujourd'hui. Peu de pays totalitaires avaient osé aller jusque-là. C'est de dire en fait que le gouvernement en place sait qui a raison. C'est qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que la vérité, pardon. Et donc de dire, nous on sait ce que c'est qu'une vraie information et qu'une fausse information. Et la loi anti-fake news permet de faire fermer un site qui distribue des fausses informations. Ça a été renforcé il y a quelques mois par la porte-parole du gouvernement sur le sujet du Covid en disant, il y a plein de fausses informations et seul le gouvernement détient les vraies informations. Ça nous pose au passage quelques questions quand le gouvernement dit, les masques ça sert à rien, puis après les masques ça sert à quelque chose. Quelle est la vraie information? Et là, il y a un véritable sujet global de liberté individuelle qui ne va pas forcément dans le bon sens.
Alors, Jean-Thomas Le Sueur, je vous pose la question sur l'application Stop Covid, parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, même si c'est censé être opérationnel le 2 juin, il y a quand même pas mal d'inconnus. D'abord, donc, vous le disiez, je synthétise la question du volontariat. Est-ce que je suis volontaire pour me déclarer malade ou porteur du Covid, et donc pour être repéré en tant que tel. La question de savoir à qui remonte l'information et qui va la gérer, dans quelle base de données, ça on ne sait pas grand-chose là-dessus. Et puis il y a une autre question, c'est est-ce que le fait d'être repéré, en quoi ça va changer mes déplacements? Est-ce que moi je peux m'en emparer pour savoir qui est autour de moi et éventuellement malade, et dans ce cas changer mes déplacements pour me protéger? Et est-ce que les autres vont pouvoir faire la même chose à mon égard si jamais ils repèrent que je suis malade? Est-ce que ça va en fait créer une distance sociale? Est-ce que le but, c'est de créer une distance sociale?
Je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne sais pas encore, nous ne savons pas encore si le porteur sera informé. A priori, il ne sera pas informé si dans son entourage, il a croisé des gens porteurs du... A priori, non, puisque ça fait partie de ce qu'on appelle l'anonymisation. Oui. Mais aujourd'hui, c'est effectivement, vous l'avez dit et il faut le redire, il y a encore beaucoup d'aspects qui sont dans le flou. Vous avez notamment évoqué la question des bases de données qui sont pourtant extrêmement importantes parce que c'est quand même bel et bien là qu'il y a... c'est l'un des aspects les plus dangereux, si je puis dire, de ce traçage, c'est-à-dire de la constitution de bases de données avec des informations nous concernant, des informations en particulier sur notre santé. Or, l'on sait que la question des données personnelles de santé sont l'une des questions qui intéressent le plus les géants du numérique, puisque c'est un marché, je le rappelle, estimé à 1300 milliards de dollars dans quelques années. Donc, en arrière-fond de ce qui est en train de se passer ces semaines-ci, il y a une immense bataille économique sur les données de santé, les données numériques de santé. Mais donc, oui, je redis ce qui a été dit parce que c'est vraiment très important. Il y a quand même encore beaucoup de flou technique. Pour l'instant, effectivement, le gouvernement explique qu'il ne veut pas la solution qui a été proposée par le binôme Google-Apple, mais je rappelle qu'il y a 10 jours, l'Allemagne, qui faisait partie des pays avec la France à développer une application propre, si je puis dire, avec une technologie, enfin, sans faire appel aux géants du numérique, l'Allemagne est sortie de ce groupe de 6 pays et a adopté la solution Apple-Google. Donc on n'est pas à l'abri de surprises. Et enfin, je me permets effectivement de répéter là aussi ce qui a été dit, le plus grand danger éthique, il est bel et bien sur l'après. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire de ces beaux outils numériques qu'on est en train de faire sortir de la boîte de Pandore? Aura-t-on la sagesse, les autorités publiques quelles qu'elles soient, auront-elles la sagesse de les remettre dans la boîte? Il est fort à craindre que non. Vous savez, il y avait un physicien hongrois au début du XXe siècle qui s'appelait Denis Gabor, qui disait « Tout ce que la science peut faire, elle le fera en dépit de la morale ». On peut dire la même chose de la technologie, et c'est notre grande crainte.
Comment est-ce que vous comptez vous opposer à cette application? Est-ce que d'un point de vue juridique, réglementaire, il y a des armes en quelque sorte pour en limiter la portée?
Alors oui, il y a déjà quelques avocats spécialisés dans les libertés publiques et les libertés fondamentales qui sont en train de travailler dessus. Ça va être un vrai combat et il faut que ce soit un vrai combat. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut vraiment que les Français soient, et là aussi ça a été très justement dit, soient sensibilisés à ça. C'est un vrai point de bascule ce qu'on est en train de vivre. Hein. C'est-à-dire que, encore une fois, l'urgence sanitaire, la sécurité sanitaire crée les conditions d'un basculement politique inédit. Et encore une fois, les autorités publiques vont avoir les moyens non seulement de savoir où l'on est et de connaître nos allées et venues, et puis notre réseau relationnel. Enfin, c'est vraiment une question de défense de nos libertés pratiques, liberté d'aller et venue, notre vie privée, c'est-à-dire de savoir qui vous connaissez et qui vous ne connaissez pas. Voilà, ce sont des choses vraiment lourdes et importantes. Il ne faut pas que ça passe comme une lettre à la poste.
Mais voilà. Apparemment, cette application, en tout cas, ne me sera d'aucun service, apparemment, pour que je puisse changer mes comportements dans mes déplacements urbains. Apparemment, ça ne me rendra pas de service. Ça renseignera, mais ça ne me servira pas à moi.
Ça ne vous aidera pas à changer de chemin.
Pour c'est ça, voilà.
C'est ça.
Alors, François.
Il y a d'autres pays qui l'ont fait, pardon.
Oui, François-Jeanne Bello.
À Singapour, où vous avez des applications qui vous permettent de visualiser dans la rue. Alors, il n'y a pas leur nom, mais il y a des petits points rouges pour visualiser les personnes et effectivement changer de trottoir. Il y a cette capacité technique et il y a certains pays qui l'ont franchi.
Alors, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que le combat que vous menez n'est pas d'arrière-garde quand on voit le point où se trouve déjà un pays comme la Chine ou même des pays très développés, comme vous l'avez cité, comme Singapour, qui ont déjà la reconnaissance faciale, qui ont déjà quantité d'informations obtenues par les caméras? Est-ce que ce qui est moins le cas chez nous, il y a des villes assez équipées chez nous, je crois, comme Nice, après l'attentat qui a eu lieu, mais sinon, on n'est pas très en avance sur le sujet, alors que d'autres nations sont beaucoup plus en avance. La Chine, je crois, a une caméra pour 2 habitants.
Oui, enfin, oui, je me réjouis qu'on soit
alors, en avance. Jean-Thomas Lesueur et François-Jeanne Bello.
Oui, je rebondis sur ce que vous disiez. Je me réjouis qu'on ne soit pas en avance en cette matière-là. Et j'ai aucune envie de me comparer à la Chine en ces matières. Par définition, nos pays, la France et les pays occidentaux, sont les pays qui ont inventé les droits de l'homme et la liberté personnelle et la limitation du pouvoir de l'État. C'est précisément ça qui est en jeu. C'est précisément ça qui est aujourd'hui menacé. Alors, sans prendre de grands mots, vous savez, Camus disait qu'il fallait que l'homme ait le souci de la liberté. La liberté, c'est un souci, c'est pas juste le plaisir de faire ce que je veux quand je le veux. C'est une éthique, c'est une responsabilité. Nous faisons partie des pays qui ont inventé, si je puis dire, la civilisation de la liberté. Effectivement, nous vivons une phase de fatigue de liberté, comme on vit une phase de fatigue de la démocratie. À nous d'essayer quand même de réveiller une majorité de nos concitoyens pour leur rappeler cela. Pour leur dire que, encore une fois, ça n'est pas une application de jeu en ligne, c'est quelque chose d'extrêmement lourd et grave, et que nous n'avons pas le droit, pour nous, pour nos enfants, et aussi au nom de cette civilisation, de laisser passer cette évolution qui, encore une fois, m'apparaît gravement liberticide.
François Jeanne Bello, je voudrais que vous nous parliez, il nous reste quelques minutes, je voudrais que vous nous parliez de la cartographie que vous avez faite avec votre société d'intelligence économique qui travaille sur la recherche d'informations en source ouverte, sur donc une cartographie en spécifiant donc les données collectées aujourd'hui. C'est un petit peu technique, mais je voudrais que vous les énumériez. Il y a les données biométriques, les données de santé, les données de géolocalisation, les données mobiles, les données Bluetooth, les données personnelles, les données comportementales, tout ça constitue une somme d'informations considérable et vous l'avez mise en carte.
Oui, en fait, c'est vrai que le consommateur ou le citoyen est un petit peu perdu quand on parle de données hein, et ne lit pas malheureusement les conditions générales d'utilisation et donc on ne sait pas trop que fait quelle appli ou que fait quel outil. Donc on a effectivement recensé pour la crise Covid ce que font les différents pays dans le monde et qu'on a recensé sur un site internet covid-innovation.fr, pays par pays, quelles sont les initiatives étatiques, parce qu'après il y a d'autres initiatives privées, mais mises en place par les gouvernements de façon plus ou moins réglementaire et plus ou moins éthique, parce que le problème il est aussi là, c'est que il y a certains pays qui sont en avance sur la loi et donc il y a vraiment un sujet éthique. On a parlé effectivement des bracelets connectés, il y a des pays qui ont repris et obligé les bracelets connectés, il y en a d'autres qui se servent comme la Russie, la Chine, Taïwan, justement des caméras et de la reconnaissance faciale qui prennent automatiquement la température à distance et détectent des cas suspects. Il y a même des projets hein, de puces sous-cutanées par certains, alors pas encore par des gouvernements, mais par Bill Gates pour ne pas le nommer, qui sont plats de la géolocalisation, là aussi il faut faire attention, mais qui permettent de tout simplement se déplacer avec son carnet de santé sur soi, et du coup si on passe dans un tunnel de lecture, de pouvoir donner des informations sur son état de santé. Il y a des systèmes de géolocalisation qui sont fournis par les opérateurs de téléphonie mobile, avec plus ou moins notre autorisation et le véritable sujet de l'anonymisation hein, qui a été évoqué tout à l'heure, qui est un peu une baliverne, pardon, c'est-à-dire que quand on dit que les données sont anonymisées, aujourd'hui on a des algorithmes qui permettent de identifier ces données, parce qu'on a tellement de données que vous avez citées qu'en mettant toutes ces données à côté, on est capable de dire non pas qui vous êtes, mais quel téléphone, quelle personne vous habitez, donc finalement, encore une fois, qui vous êtes. Et donc on a recensé un petit peu ça, on a mis des codes couleurs pour faire un petit peu une cartographie comme le propose le gouvernement, pour dire, voilà, il y a des pays qui sont plus ou moins éthiques, plus ou moins réglementaires, ou qui ont proposé des solutions, profité de la crise pour proposer des solutions plus ou moins réglementaires. Et effectivement, je me réjouis pour l'instant de ne pas être encore dans un pays marqué comme rouge sur cette carte.
Bon, enfin, on est juste avant, on est en orange hein, quand même, hein, comme les États-Unis, comme l'Inde. Il y a des pays qui sont en rouge, j'en cite quelques-uns, la Russie, la Chine, l'Iran, l'Afrique du Sud, etc. Le Mexique sont en rouge, donc plutôt mal notés. En Europe, le mieux noté, c'est la Roumanie, la Hongrie, assez curieusement quand même.
Oui,
et le Portugal.
Il y a des pays qui n'ont rien fait non plus, enfin, qui n'ont pas utilisé hein, ces solutions, donc tous les pays ne sont pas rentrés non plus dans la carte. Ouais. Nous, on a pas mal d'incertitudes sur la façon dont ça va se développer. On verra comment cette application va être proposée. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout comment ça va marcher. Et vraiment, comme je le disais tout à l'heure, moi, ce que je crains, c'est que si la situation empire et si les Français ne respectent pas le confinement comme je commence à le voir dans les rues de Paris, c'est un argument supplémentaire pour l'État de dire « Attendez, il faut une solution beaucoup plus ferme et vous n'avez pas le choix, le traçage il est obligatoire, l'application elle est obligatoire. »
Oui, mais qu'est-ce qu'il en fera ? Justement, je vous pose la question, François-Jeanne Bello et Jean-Thomas Lesueur, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il fera de ce traçage ? Est-ce qu'il y a une logique punitive derrière ? Est-ce qu'il pourra dire « Comme vous êtes sorti à telle heure, que vous avez rencontré telle personne alors qu'il ne fallait pas que vous soyez à tel endroit ?» Est-ce que vous serez pénalisé pour ça ?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En soi, l'application ne sert à rien, ne lutte pas contre le Covid toute seule. C'est soit derrière, il y a une mesure punitive, soit derrière, il y a une mesure de rétention, enfin de confinement. C'est-à-dire que si vous êtes rouge, c'est ce qui se passe en Chine, vous avez un code barre. Si vous n'avez pas le bon code barre, vous devez rester chez vous. Et dans les pays qui ont été le plus loin, vous avez votre bracelet connecté et en Pologne, l'État vous appelle et ça c'est un robot hein, qui va vous appeler, vous devez vous prendre en photo avec un selfie, il y a une reconnaissance faciale qui prouve que c'est bien vous et on vous géolocalise pour dire ok, vous êtes bien chez vous, ça va. Donc ça peut être un progrès social comme en Chine. Voilà, si vous êtes noté comme un bon élève, et si vous êtes un bon élève, vous avez le droit de sortir du pays. Et si vous êtes un mauvais élève, ben vous restez confiné chez vous.
Jean-Thomas
Le
Sueur,
vous payez plus d'impôts.
Merci beaucoup. On va devoir se quitter. Malheureusement, tous les deux, je cite vos deux initiatives. Alors d'abord, celle que vous avez mentionnée à l'instant, la cartographie, c'est www.covid-innovation.fr pour repérer cette carte, pour aller se renseigner sur cette carte et ce que les pays ont pu faire en matière de développement numérique. Et ça, c'est du côté de François Jeanne Bello, qui donc représente la société Trouvert, qui est spécialisée en intelligence économique et qui enseigne à l'école de guerre économique. Et puis, je remercie également Jean-Thomas Le Sueur, délégué général de l'Institut Thomas More, laboratoire d'idées, de solutions innovantes installé à Bruxelles et à Paris, avec cette campagne intitulée « Traçage numérique, pourquoi c'est non ?». Je vous remercie et puis je vous dis naturellement à demain pour En quarantaine. Et on se retrouve dans quelques instants avec Nicolas Hens.